Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes, et comme chaque troisième tumulte du mois, le poème provisoire de Sylvie Neve. Puis, dans 30 minutes, le journal de tumulte avec Guy, invité Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. C'est le contenu de ce tumulte numéro 893. Jean au micro, salut. Et pour commencer musique avec le sextet Henri Texier Strada. L'album s'appelle Alerte à l'eau et c'est une nouveauté. Thank you. Voilà, Henri Texier, Strada Sextet, nouvel album, Alerte à l'eau. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Africa. Nouveauté toujours avec le duo Raled Algeramani et Serge Tessogué. Deuxième album qui s'intitule Deuxième jour. Et ensuite, ce sera le poème provisoire de Sylvie Neve.
We'll be right back. Bonjour tumulte. Depuis quelques mois, le poème provisoire déroule son feuilleton en terre de Palestine. Noël bientôt. La bande de Gaza connaîtra-t-elle la trêve de Noël ? Pas bleu du tout. Une tour de Babel a remplacé la distance qui sépare l'utopie de la réalité. Les terres qui ont été confisquées, les maisons qui ont été détruites, les routes de contournement qui ne mènent. On repose la question du Néguef. Le désert n'est jamais vide. Socle cristallin y est partout. Sensible socle affleure de part et d'autre. Le manteau de limon crevassé par les ouèdes. Cristallin à fleurs, les troncs de tamaris sont noueux et ravinés, le socle ancien constitue la partie méridionale de la longue vallée étroite des Sangs. De nos jours, le désert. L'évacuation de la Palestine, l'hypothèse du Kenya, la déclaration tripartite, les lignes d'armistice, les États membres, les réfugiés de la bande de Gaza. Le bétail broute de l'autre côté de la ligne d'armistice. L'Égypte s'abstient lors des votes successifs. Les tribus bédouines. De nos jours, le désert, bordé de marécages aux extrémités, le fait des frontières n'est pas encore établi. De nos jours, le désert, bordé de marécages aux extrémités nord et sud, plus au sud, péninsule du Sinaï se prolonge vers le nord, le long du golfe d'Aqaba. Les troncs de tamaris sont noueux et ravinés, jusque dans le Néguef sud-oriental, le manteau de limon crevassé par les ouèdes. Et au-delà, à la base de l'escarpement, jusque dans le Néguef sud-oriental, le désert n'est jamais vide. Le manteau de limon crevassé, et au-delà du plateau de Transjordanie, à la base de l'escarpement jusqu'à la limite de partage des eaux entre l'Ouadi Araba et la mer Morte, on repose la question du Néguef. L'hypothèse du Kenya. L'évacuation de la Palestine. Les résolutions de l'ONU. Les prochaines livraisons d'armes. On repose la question du Néguef. L'évacuation de la Palestine. Le désert n'est jamais vide. Le manteau de limon crevassé de mots, du moins y distingue-t-on une série plissée et métamorphique, gneiss et schiste cristallin, bordée de marécages aux extrémités. Des laves et intrusions ou extrusions de granodiorite et de granit très variés, porphyres et rhyolites et quartz, le manteau de limon de langue, les troncs de tamaris, le manteau crevassé. Vallées y sont rares et la route principale. Les résolutions de l'ONU, les prochaines livraisons d'armes, l'hypothèse du Kenya, la déclaration tripartite, les lignes d'armistice, les États membres. Le bétail broute de l'autre côté de la ligne d'armistice. L'Égypte s'abstient lors des votes successifs. Les tribus bédouines. De nos jours, le désert, bordé de marécages aux extrémités. Les troncs de tamaris, le manteau crevassé, vallées y sont rares et la route principale. bande de terre dans un pays de désert. Désert égyptien du Sinaï, mauve, rose, violet. Désert de Judée, désert de Qumran près de la mer morte, désert du Negev, pâle et monochrome, recouvert de leus. Désert d'Isère, le désert n'est jamais vide. Les troncs des tamaris sont noueux et ravinés, le manteau de limon crevassé par les ouèdes. Mordoré le manteau de limon de langue, ressac ressassé par les aèdes. Le désert n'est jamais vide.
Nelady, za mě nevím kam, kam se schovávám, nevím kam. Ni já, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ani bílá, ani černý, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam.
Au revoir, tumulte, à l'année prochaine.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neve. Chaque troisième tumulte du mois.
Tady ani tam, sama, ani sám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, dávno.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Dans un peu plus de 5 minutes, ce sera le journal de Tumulte avec Guy, invité Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. D'ici là, musique avec une nouveauté encore, un album de Eric Linini intitulé Big Boogaloo. Le journal de tumulte avec Guy. Invité Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Au sommaire de ce journal, inégalité suite du précédent numéro, un livre qui paraît bien opportunément, en finir avec les inégalités, écrit par Jean Gadret, et puis à la suite, quelques brèves économiques. Et pour commencer, Guy, je crois que Laurent a fait la une et il nous en avait pas parlé.
Laurent, il fait la une de Radio PFM, bien sûr, régulièrement. Et maintenant, il fait même la une du monde diplomatique. Donc, je pense qu'il commence à devenir célèbre, hein, notre ami Laurent. Donc, effectivement, le monde diplomatique, numéro de décembre, ouais. 2006, en une. Des experts aux idées fracassantes, guerre aux chômeurs, par Laurent Cordonnier. Économiste, il y a une petite étoile, donc économiste, maître de conférence à l'université de Lille 1, auteur de Pas de pitié pour les gueux, Raison d'agir, Paris 2000, donc c'est bien
Laurent. Ça doit être lui.
C'est bien Laurent qui est avec nous. C'est un travail que tu mènes depuis longtemps d'ailleurs, effectivement, la référence au livre est importante, que tu avais publié en 2000, Laurent, Pas de pitié pour les gueux, autour le titre, je pense qu'il est bien trouvé, Guerre aux chômeurs. Alors c'est un article, un long article, hein, qui développe la stratégie, les orientations politiques de l'OCDE, de l'Europe, etc., contre les chômeurs. On n'en parle pas de l'article, Jean?
Ah bah si, hein. Il fait causer Laurent.
Bah, bien sûr qu'il va causer Laurent. Bon, bah, vas-y, cause Laurent. Non,
voilà, bonjour.
Vas-y, cause Laurent, vas-y. À toi la parole.
Ah non, vas-y.
Non, je ne sais plus ce que je disais. Il me coupe la chine.
Sacré.
Tu veux que je me pose la question?
Ouais, pose-toi la question. Hein, comment ça va, Laurent? Qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir là, après l'émission? Non, je sais plus ce que je disais. Si, je voulais dire une chose. Donc, moi, il y a un premier chiffre qui m'a marqué. Hein, je pense que c'est un chiffre qui est révélateur, qui est significatif de toute ta démonstration. C'est que le RMI qui n'a plus été revalorisé depuis bien longtemps, a perdu 25% de sa valeur par rapport au SMIC depuis 1990. Hein, donc c'est vrai que je pense que c'est important comme données. L'impression que des gens sont... Vas-y, Laurent.
Justement, c'est intéressant parce que ce chiffre, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est Jean Gadret dans le bouquin que Jean a annoncé dans les titres. Un bouquin qui s'appelle « En finir avec les inégalités » et où effectivement il s'est un petit peu à certains endroits penché sur quelques calculs, dont celui-ci, qui met en évidence que le RMI n'a pratiquement plus du tout été revalorisé depuis 5 à 8 ans. Et du coup, il a connu un décrochage par rapport au niveau du SMIC de 25%. Et c'est parfaitement, effectivement, c'est une illustration complètement centrale. Il y en aurait bien d'autres, mais des politiques de l'emploi qui sont mises en œuvre. Parce que tout ceci est parfaitement justifié, hein, s'inscrit dans un schéma parfaitement rationnel. En gros, bah, il vaut mieux pas améliorer les revenus des gens qui sont privés d'emploi. Et donc surtout pas revaloriser le RMI, parce que l'analyse qui est faite par la plupart des économistes orthodoxes qui dominent la scène, c'est que ça diminuerait les incitations à reprendre un travail. En gros, si les revenus de remplacement, c'est-à-dire ceux qu'on touche quand on n'a pas de travail, sont insuffisants relativement aux revenus qu'on touche quand on a un travail, on n'est pas incité, s'ils sont trop élevés par rapport à ceux qu'on obtient quand on a un travail, on ne serait pas incité à retravailler, et donc on aurait là une explication majeure, essentielle du chômage. Un chiffre que je sors pas, que je sors pas dans le papier, mais dont il faut se souvenir, c'est qu'il y a eu un article dans Économie et Statistiques en 2000, si je me souviens bien, ou 2002, de Larocque et Salanier, qui sont deux directeurs de division à l'INSEE, et qui estimaient que le chômage volontaire en France était 57% des chômeurs. Le chômage volontaire, c'est-à-dire c'est celui-là, c'est celui qui est créé par les désincitations au travail.
Comment on calcule un tel pourcentage ?
Alors là, c'est un petit peu difficile à développer ici, mais ce qui a été mis en évidence, c'est que leur méthodologie, elle était complètement tautologique, si j'ose dire, c'est-à-dire que c'était une forme d'auto-validation de la théorie. Ils supposaient que la productivité marginale de ces travailleurs était inférieure au SMIC, bon, et que cette productivité étant inférieure au SMIC, le fait de pouvoir revendiquer un salaire au niveau du SMIC les écartait de facto du niveau de l'emploi. Et ce qui leur permettait de revendiquer ça, c'était le fait qu'il y avait des revenus de remplacement. Bon, à passer temps là-dessus, tout ça c'est, d'ailleurs a été critiqué point par point par Michel Husson, qui est un économètre également formé à l'INSEE, bon, et donc voilà, dans la même baignoire que, au départ que Larocque et Salanier, mais qui est maintenant dans le bon camp, enfin qui a toujours été dans le bon camp, Michel Husson. Et donc il avait fait une critique au point par point de ce papier, il avait recensé 50 erreurs méthodologiques dans le papier.
En parlant
c'est
de critique,
toujours, je pense que c'est toujours sur son site. Il y a un site de Michel Husson qui.
En parlant de critique point par point, il y a un petit encadré là dans ton papier qui concerne le point. Justement, bon, l'article, on va pas y revenir, n'est-ce pas, Jean? On invite nos auditrices, nos auditeurs à aller le lire. Mais quand même, bon, deux questions à côté. Bon, comment on en arrive à publier un article dans le Monde diplomatique ? Comment le processus ? C'est toi qui a soumis le projet ? Tu as été sollicité ?
Non, là, j'ai été sollicité par Serge Halimi, qui est journaliste au Monde diplomatique, parce que, justement, à propos de l'article du Point, c'est-à-dire que, bon, eux, ils stockent de la documentation, puis à un moment, ils se disent, quand même, il faudrait réagir sur ce point-là, et donc, il s'est tourné vers moi pour me dire, qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Alors, ouais, deuxième aspect, tu ne dois pas te faire que des amis en publiant ce type d'article, et notamment, bon, dans le milieu universitaire, et puis, alors, justement, par rapport au Point, là, tu peux peut-être en dire un mot, là, sur... Cette réponse...
Oui, non mais la phrase est un petit peu assassine à la fin sur le Point, parce que dans le Point, ils se saisissent de cette histoire qui a fait un peu un pétard mouillé d'un chômeur qui a publié ses mémoires de chômeur professionnel, un fameux Thierry F, qui expliquait à longueur de bouquin comment on pouvait vivre pendant 13 ans sans travailler, et donc de la générosité sociale, entre guillemets, parce que générosité, ça veut dire vivre du RMI, tout ça. Et donc le Point fait un article là-dessus, sur ce bouquin, en disant, ben voilà, c'est carrément scandaleux, quoi. Y a des gens qui arrivent à vivre au crochet de la société pendant 13 ans sans bosser. Et à l'occasion de cet article, ils se fendent d'un petit effort pour nous dire, mais comment on peut arriver à vivre avec le RMI ? Parce que de toute façon, il y a quand même un problème. Et donc, ils accumulent les avantages du RMI. Je ne sais pas, tu peux peut-être les citer parce que la liste est impressionnante.
Ah oui, bah, la location. Alors, donc, quand on est RMiste, hein, on a aussi droit à la location logement à temps plein, la suspension de ses dettes fiscales, l'exonération de sa taxe d'habitation, de sa redevance, de sa cotisation à la CMU, couverture maladie universitaire, l'accès gratuit à la complémentaire santé de la CMU, la prime de Noël, le tarif téléphonique social, la réduction dans les transports, la gratuité des musées, diverses allocations supplémentaires en fonction de son lieu d'habitation. Donc, c'est vrai que la liste est longue. Hein, donc, ça donne envie.
Ça, c'est le point, exactement. Non, mais ça donne envie d'être au RMI, quoi. C'est le Point qui publie cette liste. Ce qui est tout à fait intéressant là-dedans à dire en plus, c'est que tout ce que tu cites, en fait, pour une grande part, c'est justement le résultat de la mise en place des politiques de réincitation à travailler qui en réalité sont revenus sur tous ces trucs-là. Parce qu'ils font la liste, mais cette liste, elle existe toujours, mais elle a été sacrément tassée. Bon. Parce que les exonérations ont été réduites et elles ont même été augmentées pour ceux qui retrouvent un emploi. Bon. Mmh. C'est-à-dire que si on voulait être scrupuleux, il faudrait prendre un par un tous ces trucs-là en montrant comment ils ont été diminués et au contraire comment ils ont été augmentés pour ceux qui retrouvent un emploi. Bon. Donc c'est complètement tendancieux.
Alors, la dernière chose, donc on sait que pour un universitaire, il est important d'être publié, les articles, etc. Donc publié dans le Monde diplomatique, c'est...
Chez moi, c'est une revue moins 3 étoiles parce que donc maintenant les revues sont classées par les revues académiques sont classées par niveau d'étoiles. Donc quand on publie dans l'American Economic Review, c'est 5 étoiles, je te rassure. j'ai jamais publié dans l'American Economic Review, mais donc toutes les revues sont classées par le CNRS et le job de l'universitaire maintenant, c'est d'aller décrocher des étoiles. Puis après on fait du scoring. Et le ministère, il alloue les budgets en fonction du score fait par les chercheurs et par les laboratoires. Bon. le classement de Shanghai au niveau des universités. Ils classent les universités par rapport aux articles publiés comme ça. Ouais. Et puis, si tu veux, des budgets de l'Agence nationale de la recherche, parce que maintenant, c'est là qu'est est l'argent, bah, il faut réussir à réunir une équipe de 4 ou 5 personnes qui peut aligner des publis dans les revues scientifiques. Donc, c'est vraiment la toise maximale. Bon, à côté de ça, le monde diplomatique n'est pas référencé par le CNRS. C'est clair. Et ça t'enlève même des étoiles. Mais enfin, ça, on ne te le dit pas. Hein.
Bon. Donc, quand on parle d'économie orthodoxe dominante, c'est pas simplement qu'elle est dominante au niveau des idées, c'est que c'est matériel, quoi. Dans le milieu universitaire, il y a tout un tas de dispositifs qui font que une conception de l'économie minoritaire a beaucoup de mal à pouvoir s'exprimer.
Ah bah bien entendu, c'est complètement institutionnalisé, et cette économie dominante, elle est dominante en termes de publication, elle est dominante en termes de postes de professeurs, c'est elle qui truste les jurys de concours pour les promotions internes. Et donc, voilà, il y a un véritable barrage total qui est établi et durablement établi contre pratiquement l'émergence de toute pensée alternative, ça c'est clair. Ouais.
Voilà, on vous renvoie donc au numéro de décembre du Monde Diplomatique pour lire l'article de Laurent, et puis aussi lire l'ensemble du journal quand même.
Vibe. satisfy this woman of mine. I got up this morning, saw the rising sun return.
C'était Bob Dylan, Guy, que tu nous as apporté. C'est une nouveauté.
Bah, nouveauté, oui. Il est sorti l'album. Il est sorti en 2006. Je ne sais pas exactement quand. C'est peut-être pas très très nouveau, mais enfin, c'est 2006, quoi.
Voilà.
Par contre, oui, le morceau, c'est une reprise. Donc là, il nous faudra un spécialiste. Il faudra peut-être en parler à notre ami Claude, quoi. Donc, c'est une reprise d'un traditionnel, d'un classique du blues. Et on en écoutera d'ailleurs après une autre version.
D'accord. Donc l'album de Bob Dylan, on va le dire, ça s'appelle Modern Times. Retour au journal de tumulte avec Guy, on a invité Laurent Cordonnier, économiste, enseignant à l'université Lille 1. Alors on a mis en intitulé les inégalités suite du précédent numéro. Tu nous avais parlé il y a à peu près un mois des inégalités de revenus. Et là tu vas nous faire les inégalités de patrimoine.
Oui, parce que bon... On avait un petit peu décortiqué effectivement les inégalités de revenus. L'idée essentielle qu'on avait développée, c'est que ces inégalités de revenus étaient fortement accrues par l'instabilité de l'emploi, c'est-à-dire le temps partiel contraint et les accidents évidemment de parcours. Et que, en dépit d'une image apaisante avec un éventail des salaires assez faible en France, qui va à peu près de 1 à 3, quand on réintègre le temps partiel contraint et les accidents de parcours, c'est-à-dire les emplois courts qui succèdent aux périodes de chômage, ça a explosé de 1 à 13 entre les 10% les moins riches et les 10% les plus riches. Bon. Là maintenant, on vient sur les inégalités de patrimoine. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus élevé.
C'est l'explosion.
Alors, il faut dire deux mots de la différence entre revenus et patrimoine. Les revenus, c'est un flux, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat qui est créé à l'occasion de la production de richesses nouvelles et qui permet d'acheter ces richesses. Donc on parle, quand on parle des revenus, des nouvelles richesses créées dans l'année et du pouvoir d'achat qui permet de les acheter. Mais le patrimoine, ce sont les richesses qu'on a pu accumuler et qui n'ont pas disparu dans la consommation de l'année en cours. Et donc ce patrimoine, il peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Ça va de la pièce de 5 centimes qu'on a encore dans sa poche, qui n'a pas été dépensée, c'est du patrimoine, c'est du flux qui est arrêté, si j'ose dire, bon, aux avoirs en compte bancaire, aux billets de banque, aux livrets A, aux plans d'épargne logement, aux obligations, aux actions, aux golfs qu'on possède à Journes-les-Pins, aux immeubles qu'on possède, à sa maison, à sa résidence secondaire, aux tableaux, etc. Le patrimoine, c'est toute richesse stockée qui peut un jour ou l'autre être revendue pour obtenir des liquidités. Bon. Alors, quand on s'intéresse à ces inégalités-là, alors il y a des tas de problèmes, hein, parce qu'on les cerne beaucoup moins bien que les autres inégalités, tout simplement parce que la plupart des gens ne font pas de déclaration de patrimoine. En particulier, ceux qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur la fortune ne font pas ce type de déclaration, ils n'ont pas à le faire, et ça, c'est quand même 99% des ménages. Bon. Par ailleurs, même ceux qui déclarent leur fortune ne le font pas de gaieté de cœur, et donc généralement sous-estiment sans doute la valeur de leur patrimoine. Bon. Et puis deuxième chose, quand on veut vraiment saisir le patrimoine, il faut saisir le patrimoine net, c'est-à-dire ce qu'on possède moins ses dettes. Si je calcule à vous votre patrimoine et que vous avez acheté votre maison, j'en sais rien, 100 000 euros, mais que vous l'avez acheté par endettement et que vous devez encore rembourser 50 000 euros, votre patrimoine, normalement, je dois calculer en net que c'est 100 000 moins 50 000, que ça n'est que 50 000. Bon. Tout ça pose des difficultés qui fait que pour l'INSEE, c'est assez compliqué d'aller saisir ces inégalités. Alors donc, il y a un certain nombre de trucs restrictifs qui sont annoncés dans ce que je vais dire. En particulier, pour saisir ces inégalités de patrimoine, on saisit des inégalités brutes. C'est-à-dire qu'on n'a pas déduit l'endettement des gens. Alors, ça distord complètement l'affaire, parce que, par exemple, pour la classe moyenne, généralement, ils achètent des maisons chères, d'accord, mais ils ont aussi un monceau de dettes à rembourser. Or, si on calcule que leur patrimoine brut, on donne l'illusion que la classe moyenne est relativement aisée en termes de patrimoine, ce qui est sans doute pas vrai du tout. Bon, premier biais de ce que je vais raconter. Ça sous-estime sans doute les inégalités. Bon. Deuxième biais, n'est pas intégré dans ces patrimoines les biens durables, c'est-à-dire tout l'ameublement, tout ça, tout ce qui est à l'intérieur des maisons, c'est pas saisi dans la statistique. Alors, on sait bien que une manière de dépenser son argent, quand on en a beaucoup, c'est quand même de s'acheter des beaux meubles, de mettre des beaux parquets, des beaux lustres, etc. Les bijoux, c'est pas compté, et les objets d'art non plus. Bon, or, plus on est riche, plus on dépense dans ce type de biens supérieurs, parce qu'on ne sait plus comment faire, quoi. Donc ça, c'est pas compté. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme autre biais ? Ben, j'ai sans doute oublié les autres. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, peut-on avoir un chiffre assez saisissant ? Eh bien, il faut savoir que 46% du patrimoine, de l'ensemble du patrimoine des Français, est détenu par les 10% les plus riches. Si vous le préférez dans l'autre sens, les 10% des plus riches des Français détiennent quasiment la moitié du patrimoine des Français. Et ce seuil, pour faire partie des 10% les plus riches, il faut avoir un patrimoine brut de 380 000 euros. Hein ? 380 000 euros, ça fait grosso modo deux maisons coquettes à Arras, quoi. Si je me trompe pas. Et on fait déjà, quand on a un patrimoine de ce montant-là, on fait déjà partie des 10% les plus riches. Bon. Ça veut dire qu'à l'autre bout de l'échelle, les 10% les plus pauvres, eux, ils ont un patrimoine de 900 euros. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien devant eux, quoi. Mais rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont juste de quoi terminer la fin du mois. C'est-à-dire qu'en réalité, si on fait l'enquête en milieu de mois, leur patrimoine, c'est le salaire qu'ils n'ont pas encore dépensé, quoi. S'ils gagnent 1 800 euros dans le mois, à peu près. Et ça fait donc des inégalités de 1 à 400 entre le plus bas de l'échelle et le plus haut. Alors si on va voir tout en haut, il y a 1% à peu près des ménages qui, eux, sont imposés sur la fortune et qui, ont donc un patrimoine supérieur à 720 000 euros, puisque c'est le seuil de déclenchement de l'impôt sur la fortune. Si vous voulez revenir en France, ça fait à peu près 5 millions de francs. Bon. Mais encore une fois, on ne compte pas les bijoux, les tableaux et toutes ces choses-là là-dedans. Bon. Alors ça, c'est une première manière de saisir les choses. Il y a une deuxième chose intéressante, c'est sur la composition de ce patrimoine. Quand on regarde, 40% de l'ensemble du patrimoine des Français, c'est du patrimoine financier. C'est-à-dire des créances, quoi. Enfin, c'est des avoirs en compte bancaire, c'est des billets de banque, c'est des livrets d'épargne, des plans épargne logement, mais des comptes d'épargne en actions ou en obligations, des parts de SICA. Donc c'est ça les avoirs financiers, ou des prêts à l'État sous forme obligataire. Donc 40% du patrimoine, c'est de la finance. Alors il est quand même intéressant d'aller voir à l'intérieur de ce paquet. Parce que pourquoi ? Parce qu'on nous, on est en train de nous faire un petit couplet en ce moment, mais bah oui, mais le capitalisme aujourd'hui, c'est plus que c'était. Tout le monde est actionnaire. C'est le discours sur le nouveau régime d'accumulation, mais le salariat est en train de s'intégrer au capitalisme en devenant détenteur des entreprises, puisqu'il met de l'épargne de côté dans des SICAV, des SICAV obligataires, des SICAV d'actions, et puis il prépare sa retraite en achetant ce type de produits. Et donc finalement, les capitalistes, c'est nous. C'est ça qu'on nous sort comme discours. C'est même un modèle un peu qui peut servir de modèle politique parfois au PS quand il parle d'épargne salariale. L'idée d'intégrer le salariat, pas seulement par la consommation de masse, mais par la propriété des entreprises. Alors quand on va regarder ces 40% de plus près, on a des choses extrêmement intéressantes. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a seulement 15 millions de ménages qui ont des comptes titres. C'est-à-dire vraiment des gens qui détiennent des parts de SICAV ou de fonds communs de placement, ou qui détiennent directement des actions, des obligations. 12 millions de comptes titres ouverts, ils font comparer ça aux 34 millions de déclarations fiscales qui sont faites de revenus en France par an. Donc ça fait à peu près une personne sur trois qui touche des revenus à des comptes titres. Mais en allant voir encore plus précisément dans ces comptes titres, c'est tout à fait intéressant. C'est que le dépôt moyen, c'est 20 000 euros. Mais c'est vraiment une moyenne, donc elle veut pratiquement rien dire. Pourquoi ? Parce que seulement 12% de ces comptes titres possèdent 68% du total accumulé financièrement. Donc il y a une très forte concentration sur les plus gros comptes titres. On pourrait dire un dixième des comptes titres prennent 60% du patrimoine financier. Et ces 12%, ces 10% de comptes titres, c'est déjà 10% d'un ménage sur 3. Donc c'est 3% des ménages qui détiennent 68% du patrimoine financier. Alors on peut donner d'autres chiffres, je ne vais pas vous assommer, on synthétisera. Mais tout de même, si on regarde ce qui se passe tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire ceux qui déclarent un patrimoine supérieur à financier, un patrimoine financier supérieur à 76 000 euros, eh ben, ces gens-là, ils sont que 6% parmi les détenteurs de comptes titres. D'accord ? Il n'y en a que 6% qui ont un patrimoine supérieur à 75 000 euros. Mais ces 6%-là, ils détiennent 50% du patrimoine financier. Donc ça permet de relativiser un peu le discours du style « Ouais, mais arrêtez de parler des capitalistes aujourd'hui, parce que capitaliste, ça ne veut plus rien dire. Tout le monde possède des actions et tout le monde joue en bourse. » C'est complètement faux. Non seulement il n'y a qu'un ménage sur trois qui a ouvert un compte titre, et sur ces ménages, des gens qui détiennent des parts significatives, il n'y en a que 6%. Quoi.
Alors tu parlais de compte, enfin de calcul brut sans avoir retiré ce que les gens ont en dette. Est-ce que les calculs dont tu parles prennent en compte les effets redistributeurs de l'impôt, par exemple ? Quel effet ça a sur le patrimoine, ça ?
Bah, le vrai problème, c'est que on peut pas s'attaquer au patrimoine directement. C'est pas la meilleure manière de faire. D'abord, politiquement, c'est quasiment impossible, parce que c'est des gens qui ont des relais partout et qui sont capables de faire valoir leurs intérêts d'une manière bien plus puissante que les autres. Mais surtout, bon, c'est toujours délicat d'aller reprendre, entre guillemets, l'argent une fois qu'il s'est accumulé à un endroit. C'est toujours une opération quasiment impossible. Et donc, ces inégalités-là ne doivent pas être attaquées au moment où les patrimoines sont constitués. Elles doivent être attaquées au moment où les revenus sont versés et où les inégalités de revenus qui créent ensuite ces inégalités de patrimoine sont présentes. Et là, il faut dire quand même que pendant la période des Trente Glorieuses, où l'impôt sur le revenu était extrêmement progressif, la dernière tranche de l'imposition, c'était 80% en France. Hein. En Angleterre, ça a été 86%. Non, mais on s'imagine plus.
On a perdu cette mémoire de...
On a perdu complètement la mémoire de ça, tout à fait. On a l'impression qu'aujourd'hui, là, on est en train de discuter d'un taux marginal de 40% en France. Hein. Et on a l'impression que tout ça, que l'impôt est confiscatoire.
Actuellement, le taux maximum, c'est 60%. Hein, c'est ce qu'on dit.
Non, le taux marginal de l'impôt, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il est plutôt de l'ordre de 48% en France. Simplement, il se peut qu'il y ait des gens qui payent plus d'impôts que ça, parce qu'ils payent en plus l'impôt sur la fortune, Et puis parce qu'en plus, on réintègre dans ce calcul les impôts locaux. Mmh. Et donc, on a créé le bouclier fiscal pour éviter que la somme de tous ces impôts représente plus de 60% d'accord. du revenu. Mais l'impôt sur le revenu lui-même, sa tranche marginale, elle est en dessous de 50%, ça c'est sûr. Bon. Or ça, éviter de taxer plus les revenus élevés fait que dans 10 ans, ces inégalités de patrimoine auront encore augmenté. Bon. Mmh. Surtout qu'il y a des effets de seuil extrêmement puissants. Il y a à peu près 70% des Français qui n'arrivent pas à dégager un centime d'épargne. Bon. Donc ça veut dire que par exemple, en dessous de 1 200 € par mois, vous n'arrivez pas à épargner. Mais ensuite, sur les 1 000 € supplémentaires, ça va très vite. Vous arrivez à épargner 30% sur ces 1 000 supplémentaires. Puis sur les 1 000 supplémentaires, c'est 40 à 50%. Autrement dit, dès qu'on tolère des inégalités de revenus fortes, l'effet d'accélération sur la constitution du patrimoine est très très fort. Mmh. Et puis après, c'est un peu trop tard pour aller récupérer ça.
Alors, trop tard d'aller récupérer le patrimoine une fois qu'il est constitué, mais au moment où il se transmet, l'héritage.
Bien entendu, mais là, pour l'instant, ce qu'ils sont en train de faire, ça va exactement dans l'autre sens. Mmh. Et donc, on est sans cesse en train de revenir sur... Enfin, pas de revenir, mais d'augmenter les seuils d'exonération des premiers francs, enfin des premiers euros d'héritage. Bon. Donc, ils sont sans cesse augmentés. Et puis, de temps en temps, il y a des mesures ad hoc du style on permet à telle catégorie de transmettre une partie de son patrimoine du vivant parce que, soi-disant, ça relance la consommation. Ça, c'était une mesure Sarkozy qui avait été prise. Mais on entend régulièrement dans la presse aux États-Unis et en France la proposition de supprimer l'impôt sur les transmissions. Alors là, c'est s'engager dans la reproduction des inégalités dynastiques.
Mmh. Eh ben ça, c'est dans le programme de l'UMP de Nicolas Sarkozy. Hein, c'est supprimer les droits de succession pour 90 à 95% des ménages.
Ouais, les plus pauvres. Mmh. 95% les plus pauvres.
Alors, on l'a annoncé, un livre fait référence, ou c'est une nouveauté, l'apparition du livre de Jean Gadret.
Mais il faudra qu'on en parle la fois prochaine.
D'accord.
Je vais en dire deux mots tout de même, mais, parce que tout simplement, je ne l'ai pas avec moi. Mais donc, ça s'appelle En finir avec les inégalités. Les éditions, justement, je vais avoir du mal à sortir la maison d'édition. L'intérêt de ce livre, c'est que vraiment, il balaye. Dans une première partie, il fait un bilan pratiquement exhaustif de toutes les inégalités, y compris celles dont parlent plus rarement les économistes, qui sont par exemple les inégalités hommes-femmes. Elles sont extrêmement bien traitées. Mais surtout, il y a une deuxième partie où Jean Gadret s'attaque un petit peu à l'idée, comment combattre ces inégalités? C'est-à-dire, on n'est plus dans la posture de dénonciation, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu concrètement pour les diminuer? Alors, un seul exemple, l'un des leviers d'action, c'est le SMIC. Le SMIC permet de tasser la pyramide salariale. Alors, il s'adresse pas à l'autre partie des revenus qui sont les revenus de la propriété ou de l'entreprise libérale, mais au moins il permet de maintenir la pyramide salariale. Alors, il prenait l'exemple du SMIC parce qu'il décortiquait la proposition du PS qui était de faire passer le SMIC à 1 500 € brut en fin de législature. Bon. Et quand on regarde à fond cette proposition, ça veut dire faire croître le SMIC de 2,8% par an, mais attention, hausse des prix comprise. Et faire croître le SMIC à ce rythme-là, hausse des prix comprise, c'est le faire croître à la moitié du rythme de progression du salaire ouvrier de ces 5 dernières années. Mmh. Donc en réalité, c'est programmer un décrochage du SMIC par rapport au salaire moyen ouvrier sur les 5 ans à venir. Bon, donc voilà, ça c'est des décortiquages intéressants. Ça veut dire que si on veut faire une proposition sérieuse, c'est pas celle-là qu'il faut faire, il faut aller un petit peu plus loin. Bon. Et il y a toute la deuxième partie du livre est consacrée à ça.
Donc on en reparlera.
Il faut en reparler. Something's going on.
Voilà, c'était la version donc canédite de Rolling and Tumbling. Magazine Tumult, Guy, en compagnie de Laurent Cordonnier. On va couper quand même canédite.
Ouais, ben c'est le curseur là.
Et donc, on poursuit avec des brèves. Et pour commencer, cette annonce faite dans les médias, là, hier,
hier.
Aussitôt, hier. Hier
donc, on va pas payer d'impôts en 2008, c'est ça l'annonce faite à Marie. Ouais, ouais.
La confusion la plus totale, en tout cas, c'est prélèvement de l'impôt à la source.
Oui, bien sûr. Mais justement, là, il faut commencer par dire que c'est absolument scandaleux la manière dont le ministre a présenté cette mesure. Enfin, on a atteint un sommet de bêtises et d'entourloupes. C'est assez grave au niveau de la République. Bon, ce type est un peu coutumier de j'embobine le peuple avec quelques chiffres chocs ou avec quelques phrases chocs, mais c'est vraiment pas le rôle d'un ministre des Finances que d'essayer d'entourlouper tout le monde avec des effets d'annonce. Bon, ensuite, complètement incompréhensible. Je vous rappelle que c'est lui qui nous avait annoncé qu'on naissait tous avec une dette de 90 000 euros en France, puisque chaque bébé naît en France avec une dette de 90 000 euros dans son berceau, parce que c'est le montant du déficit public. Bon, ce qui était une véritable escroquerie intellectuelle, parce qu'il y en a qui naissent avec cette dette, il y en a qui naissent avec une créance sur l'État. Si l'État est endetté de 1000 milliards d'euros, c'est qu'il y a des familles qui ont prêté 1000 milliards d'euros à l'État avec 5% d'intérêt par an. Alors, on n'est pas tous dans le même berceau, mais ce type était capable de sortir un truc pareil.
Attention, parce que là, tu vas encore te faire des ennemis, Laurent. Je cite Jean-Louis Borloo, qui est quelqu'un de la région, qui est aussi ministre de l'Emploi, et qui dit donc à propos de la réforme proposée par Thierry Breton, je cite, « S'il la propose, c'est que ça doit être intelligent, parce que c'est un très bon ministre de l'économie. »
Oui, c'est une bonne démonstration. C'est une bonne démonstration, et je la partage. Mais donc, dans cet effet d'annonce, il faut le redire, et en plus, c'est écrit noir sur blanc et rabâché, je vais vous lire son interview dans Les Échos. Le journaliste lui dit « Comment régler le cas de l'imposition des revenus de l'année 2008 ?» Donc je vous rappelle, l'effet d'annonce c'était « Je propose que 2008 soit une année de non-imposition ». Fermez les guillemets, hein. « Je propose que 2008 soit une année de non-imposition bon. ». Et dans l'interview, ça continue, le journaliste lui dit « Comment régler le cas de l'imposition des revenus de l'année 2008 ?» Réponse, c'est une des questions les plus importantes que le débat devra éclairer. Là, il a vraiment besoin de lumière. Je propose que 2008 soit une année blanche sur le plan fiscal. Bon, et il continue, autrement dit, les revenus de cette année-là ne seront pas imposés. Les contribuables acquitteront, alors là on commence à avoir un peu d'explication, acquitteront en 2008 l'impôt sur les revenus de 2007, bon, ça veut dire qu'on est toujours sur le régime actuel, on paye à l'année T les impôts sur les revenus perçus à l'année T-1. Donc en 2008, on paiera l'impôt sur les revenus 2007. Et dès janvier 2009, ils paieront l'impôt sur les revenus de l'année en cours, de 2009. Donc vous croyez que vous allez avoir une année blanche, mais en réalité, en 2008, vous payez vos impôts dus au titre de 2007, puis en 2009, on bascule tout de suite, vous payez vos impôts au titre des revenus de 2009, vous les payez en temps réel. Dès que vous percevez votre salaire, une partie de ce salaire part au fisc.
Mais ceux de 2008, ils sont payés quand ?
Ils ne sont pas payés. Ben, une année blanche. Il n'y a pas d'impôt
alors,
pour l'année 2008.
Alors, où c'est ? Très bonne question.
Ouais, non. C'est malin ce qu'il a quand même dit, parce qu'il n'y a effectivement pas d'impôt sur le revenu 2008,
oui.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une année sans impôt.
Oui, alors tu as raison, où sont passés les impôts 2008 ?
Voilà.
Alors, à sa décharge, il y a tout de même un gain pour les imposer. Mais où il est ? Je me suis pris la tête pendant assez longtemps dans mon fauteuil pour essayer de voir ce qui se passait.
Quand il décède.
Non.
Ici.
Oui, mais là, c'est ses enfants. Mais c'est quand il part à la retraite, par exemple, déjà.
Ah, là, d'accord.
Il y a un petit truc avantageux, c'est que aujourd'hui, quand vous partez à la retraite, prenons le cas de 2009. Hein, vous partez à la retraite en 2009. En théorie, vos revenus vont être, par exemple, divisés par, 0,7, n'affolons pas les Français. Hein. Donc, vos revenus sont diminués de 30%, mais vous allez payer en 2009 quand même des impôts sur la base des revenus perçus du temps où vous étiez actif. Donc, là, c'est assez dur à faire, ça, cette opération. Tandis que là, tout de suite, ils vont être ajustés. Bon. Et donc...
Vous la récupérez donc.
Si on compare ces deux situations-là, on récupère à ce moment-là. Et puis évidemment, au moment où on décède, effectivement, les héritiers se tapent pas pendant un an les impôts qu'ils se payaient avant. Bon.
Non, mais ça donc, c'est l'avantage technique de la mesure.
C'est pas technique. C'est quand même un avantage économique. Ouais. C'est vrai que globalement et sur le long terme, les ménages vont être gagnants à cette opération. Mais il faut le dire comme ça et il faut pas raconter. Et pourquoi il faut le dire comme ça ? Parce que les gains ils sont dans le futur. Et donc normalement quand on considère des gains dans le futur, on applique un taux d'escompte parce que 1000 euros gagnés dans 10 ans, c'est pas 1000 euros aujourd'hui. Et si vous appliquez comme taux d'escompte le taux d'intérêt, ça fait à peu près 500 d'aujourd'hui. Bon. Donc voilà, c'est ça qu'il faut dire de manière compliquée quand on n'essaie pas de rouler les dans la farine. Et là, c'est quand même un point important, quoi. Les gains, ils sont très loin devant vous.
Oui, mais quand même, les revenus de l'année 2008 ne seront pas imposés. Puisque en 2008, on paiera les impôts sur ses revenus de 2007, et en 2009, on paiera ses impôts sur les revenus de 2009.
Oui.
Et donc, bon, alors, ça, c'est, effectivement, on ne verra pas la différence. Hein. Sauf quand même pour les gens, si j'ai bien compris, qui, en 2008...
feront une année exceptionnelle.
Voilà, c'est ça. Ouais, aurait des revenus très, très, très importants.
Donc il faut... Non mais t'es en train de nous inciter à, en 2008, faire plein d'heures sup par exemple.
Ouais, c'est là qu'il faut concentrer ses revenus exceptionnels. Ouais,
tout à fait. Tu ne paieras pas d'impôts sur tes...
Il va y avoir des gros comportements stratégiques sur le paiement des factures, sur le paiement des honoraires. Quelqu'un qui peut dire à son prestataire, écoutez, au lieu de me verser les honoraires le 30 novembre 2008, versez-les...
C'est avant qu'on fasse.
C'est au lieu de me verser des honoraires le 2 février 2008, essayez de les avancer un petit peu pour que ça tombe au titre des revenus de 2007.
Ouais, non, 2008.
L'inverse. Il faut repousser de 2007 à 2008.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Vous devez me payer en novembre 2007, basculer ça sur 2008. Donc là, il va y avoir effectivement des comportements stratégiques assez importants. Je pense que ça les préoccupe. Hein. Ils en fait état.
Mais tout ça, ça ne concerne que les revenus par le salaire. L'impôt...
Le prélèvement à la source, oui.
Prélèvement à la source. Hein,
ça va concerner les salaires, les revenus des professions libérales et d'autres types de revenus, mais pas les revenus financiers. Salaires et professions libérales vont être concernés.
Ça veut dire que les professions libérales peuvent déclarer... comment c'est possible ça ? Comment ils peuvent être prélevés ?
Oui, ça va être un problème parce que normalement, il faut faire une comptabilité assez serrée pour connaître ce qu'on appelle le revenu mixte de l'activité libérale. Il faut vraiment tenir sa comptabilité parce qu'il faut avoir déduit les dépenses d'investissement, les frais généraux et tout ça. Donc là, je ne sais pas comment ils vont
faire. En fait, c'est des estimations avec régularisation à la fin de l'année peut-être.
C'est tout à fait possible. C'est ce que font les caisses de retraite pour les revenus des libéraux. Donc, il risque d'y avoir des calculs un peu forfaitaires.
D'ailleurs, je pense qu'il y a une critique aussi liée à cet aspect, c'est-à-dire que on peut perdre en finesse dans l'échelonnement du taux d'imposition, quoi, en fonction du revenu.
Ouais, non, parce qu'il y aura un rattrapage en fin d'année. De toute façon, il y a une obligation de recalculer. Ça ne va pas simplifier les choses. Ça ne va pas simplifier les choses, cette affaire, parce qu'il faudra bien refaire de toute façon le bilan des revenus. Quand vous êtes un ménage, il faudra bien refaire en fin d'année le bilan des revenus perçus par le ménage et voir si les taux qui avaient été appliqués en calculant sur la base de l'année dernière, ils correspondaient bien aux revenus de cette année. Bon. Donc il faut de toute façon tout refaire à la fin. Il faut refaire les comptes.
Alors quand même, au bout du compte, enfin, sur le principe, indépendamment de la mise en œuvre de la mesure éventuelle, sur le principe, est-ce que c'est un principe intéressant ? C'est quand même le fait que l'on paye des impôts qui sont adaptés à la situation réelle dans laquelle on est au moment où on les paye.
Exactement. On est en temps réel et donc il n'y a pas d'effet de décalage. En particulier, l'effet de décalage est surtout important quand les revenus baissent d'une année sur l'autre. Et du coup, là, on n'encaisse plus cet effet retard où il était aussi important en cas du décès d'un conjoint. Parce que si le conjoint décède au milieu de l'année et qu'on se paye les impôts calculés sur la base de l'année dernière à payer, il y a quand même un revenu en moins. Bon. Donc sur ces deux trucs-là, c'est très intéressant. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de politiquement intéressant aussi dans cette mesure. C'est que je trouve très, très dommageable l'idée que voilà, vous percevez votre revenu. Hein, et puis ensuite, on vient vous le rechercher, entre guillemets. Alors les gens, ils ont l'impression vraiment que l'État leur pique leur fric, quoi, et que c'était leur fric, hein, et qu'on vient leur rechercher. Or, je considère que l'impôt rémunère des biens publics, qui sont un facteur de production essentiel pour la valeur ajoutée des entreprises. Il y a plein de biens gratuits. Les routes, c'est quasiment gratuit. Les infrastructures portuaires, c'est gratuit. Bon, l'État, le capital humain est quasiment gratuit, celui qui est payé par l'éducation. Bon, donc ça veut dire que les biens publics sont un facteur de production dans l'entreprise qui aide à créer la valeur ajoutée. Et faire croire que ça tombe d'abord dans votre poche et que c'était votre fric et ensuite vous le rétrocédez à l'État, enfin, ça crée un problème politique énorme. Donc je suis assez favorable à l'idée, ben non, c'était pas vraiment votre argent finalement, c'est la quote-part.
Putain, Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois ?
Putain, Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Alors ? Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Clébert, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles, comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen. Il aurait mieux fallu rester chez moi. aurait mieux fallu rester chez moi.
Fallu. Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué, ça?
Non, il aurait mieux fallu. C'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant.
Alors?
Voilà.
Alors?
Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Voilà, on termine ce journal de tumulte. Laurent, une dernière brève, c'est ça?
Oh oui, et puis une bonne nouvelle.
Ah.
Une très bonne nouvelle. Non, là, j'ai fait des bons en lisant une interview de Laurence Summers. Enfin, pas une interview, un papier de Laurence Summers publié par Les Échos dans la rubrique Idées et publié en collaboration avec le Financial Times. Alors, deux mots quand même sur Laurence Summers avant de regarder ce qu'il dit dans le papier. Laurence Summers, c'est vraiment l'économiste orthodoxe, comme on peut pas pire, défenseur du marché à fond la caisse, cynique au possible, et évidemment conseiller économique de Bill Clinton en son temps, parce que ce type se pense quand même comme un progressiste. Hein. Mais et petit rappel aussi sur Laurence Summers, c'est qu'il a occupé des fonctions éminentes, donc conseiller économique de Bill Clinton, mais il a eu aussi des fonctions de chef économique au FMI et à la Banque mondiale. C'est l'un des promoteurs des politiques de développement qu'ont connu les pays du Sud. Et c'est ce type sympathique qui avait sorti une fois cette phrase qui a fait le tour de la planète quand même, selon la rationalité économique, ce qu'il fallait faire avec les déchets toxiques, c'était les envoyer en Afrique, parce que c'est en Afrique que la durée de vie est la plus basse, et donc c'est en faisant ça qu'on diminue le moins le bien-être global de la planète, puisque les gens ils n'auront pas le temps de souffrir de toutes ces pollutions. Donc c'est vraiment un économiste parfaitement rationnel, un type éminemment sympathique, et défenseur, un pénitent du marché. Et là, j'ai failli me retourner dans ma tombe, parce que il nous explique dans ce papier très très intéressant, il faudrait aller le lire, que attention quand même, attention à ne pas aller trop loin. Bon. Et en particulier, il s'inquiète du retour des démocrates au Congrès, alors que normalement ce type est un petit peu démocrate, parce que il a quand même aidé Bill Clinton et il se dit néo-keynésien. Donc il s'inquiète, c'est très compliqué, hein, il s'inquiète du retour des démocrates au Congrès en disant « Si le nouveau Congrès s'estime mandaté pour résoudre quelque chose dans le domaine économique, il peut proposer une politique qui défende les Américains moyens contre la menace que représentent à leurs yeux les entreprises et les intérêts financiers. » Attention, ça va faire mal. C'est-à-dire, si le gouvernement démocrate se mêle de faire quelque chose, il risque de défendre les classes moyennes contre la finance et l'entreprise. Alors, il dit, ces thèmes populistes trouvent leur origine bien au-delà des discours électoraux. Donc, ça veut dire, défendre les classes moyennes, c'est extrêmement populiste. Et qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique qu'il y a une réelle inquiétude aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le partage salaire-profit se dégrade en défaveur des salariés et en faveur des entreprises, et que ça va beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, et que si ça va beaucoup trop loin et beaucoup trop vite, ça risque de retentir sur l'amour des Américains pour le système du marché. Or, le système du marché est bon, et donc il faut sauver le système du marché, et donc il faut commencer à s'inquiéter de ça, et c'est dit avec une honnêteté grandiose. Donc on est content quand même d'avoir des amis parmi les riches. Trop de marché, tue le marché. Mmh. Exactement. Et donc là, tout d'un coup, il y a la force de rappel. Et alors, il prend des chiffres que j'avoue que moi-même, je n'aurais pas pu sortir. Il dit, alors qu'habituellement, les travailleurs américains touchent près des trois quarts des revenus de l'entreprise, c'est le partage de la valeur ajoutée, mais en gros, c'est 70% pour les salariés, 30% pour les entreprises. Eh bien, alors que c'est ça la moyenne, l'Economic Politic Institute a calculé que depuis 2001, les salariés ne perçoivent qu'environ un quart de l'augmentation des revenus de l'entreprise. Les entreprises touchant les trois quarts. C'est-à-dire, il fait ce calcul-là, il dit, si on regarde quel était le PIB en 2001, si on regarde quel est le PIB en 2006, faisons la différence, donc de combien s'est accrue la richesse américaine en 5 ans. Et regardons ce qui est allé aux entreprises et ce qui est allé aux salariés. Ben, 75% est allé aux entreprises et 25% est allé aux salariés. Alors le gars, là, il dit peut-être qu'on va trop loin. Et puis il donne deux ou trois autres chiffres. Mais après, on comprend qu'est-ce qui l'inquiète vraiment. Ce qui l'inquiète vraiment, c'est que pour la plupart des travailleurs, l'évolution des salaires ne respecte même plus celle de l'inflation. C'est-à-dire que leur pouvoir d'achat, il baisse en net. Ça, on le savait un peu depuis un moment, puisqu'on sort régulièrement ce chiffre. Ici, salaire horaire de base ouvrier, il est inférieur à ce qu'il était en 1950, en termes de pouvoir d'achat réel. Bon. Mais après, on comprend encore, il dit, et les diplômés universitaires sont particulièrement touchés. Leur salaire ne s'alignant plus sur les prix depuis 5 ans. Donc là, le capitalisme commence à manger ses propres enfants, et Laurent Summers dit, là, il va falloir quand même faire quelque chose. Et donc, pour sauver l'Amérique du populisme, puis il y a un regard qui est donné sur l'Amérique latine, pour sauver le marché, il serait temps quand même que nous sachions nous auto-limiter. Et vraiment, l'article est absolument splendide de A à Z. Ce qui me fait dire, ce qui fait un peu regretter l'Union soviétique, quoi. C'est-à-dire que quand est-ce que le capitalisme était raisonnable, quand il avait la peur et la trouille bleue que ça bascule dans l'autre camp, et quand il y avait la peur du rouge. Et finalement, là, ce que lui appelle les populismes, c'est un peu cette image de l'Amérique latine qui est partie à gauche. C'est toutes les attaques qui sont faites sur le libre-échange, parce que ça commence à être de plus en plus difficile à faire passer l'étape de la loi du libre-échange au niveau international. Et donc, il faudrait une réaction salutaire.
Fin du journal de Tumulte, et on termine cette émission, ce magazine Tumulte, avec Sonic Youth pour une ou deux minutes. We'll be right back. c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 23h30. À la semaine prochaine, salut.